Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, il y a un débrief de la tech avec des beaucoup de voyageurs là parmi nous. Et oui, alors pas pour des week-ends, mais parce que pour l'un, il vit aux États-Unis, pour l'autre, il avait fait partie du voyage avec Emmanuel Macron en Corée du Sud. C'était Corée du Sud et Japon Corée du Sud et Japon. Il y est retourné pour justement concrétiser tous les contacts. Merci à tous d'être là. Augustin, c'est hier. Bonsoir.
Bonsoir
Augustin.
Fred.
Merci d'être avec nous. Donc cofondateur d'OVNI, donc fonds d'investissement. Et je disais, c'est quoi l'ambiance San Francisco en ce moment ?
Ça pétille, elle est excellente.
C'est dingue.
Ah ouais, tous les gens sont heureux, ça construit. Bon. C'est sympa d'être dans un écosystème aussi optimiste.
Oui, parce qu'à un moment, on a senti que le moral redescendait un petit peu, puis l'IA, ça a redonné un élan à tout le monde, et puis c'est reparti.
Moi, je suis un récent immigré
et juste, à San Francisco. Juste de tout ce qu'on entend autour de Trump, c'est quoi l'ambiance dans la tech par rapport à Trump ?
Ils lui sont plutôt favorables. Hein.
Ouais.
Ils ne le disent pas trop, mais ils lui sont plutôt favorables.
Autre voyageur, Thomas Serval. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, CEO de Barracoda, donc spécialisé dans l'Internet des objets, mais qui, ça fait des années, chez Google, chez Microsoft. Et toi, tu reviens de, c'est Japon et surtout Corée.
Chine et Corée.
Chine et Corée, avec, là aussi, ça pétille, ça a un élan incroyable.
Ça a de l'espoir sur le futur.
Oui. Et d'ailleurs, lorsqu'on reparlait de ce voyage de Donald Trump qui était il y a une dizaine de jours, on se disait qu'aujourd'hui, je crois que c'est le seul à pas avoir compris que c'était la puissance technologique, elle avait basculé vraiment côté chinois et un peu moins côté, elle est toujours présente bientôt côté américain, mais que les Chinois ont vraiment rattrapé tout cela. Et puis avec nous, merci d'être avec nous, Michel Lévy Provençal. Bonsoir Michel.
Bonsoir Frédéric.
Fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness. Et là aussi, tiens, on parlait tout à l'heure d'efficacité grâce à l'IA. Aujourd'hui, toi, tu juges que... productivité.
Écoute, la productivité, on pourrait en parler pendant des heures, a littéralement explosé avec l'IA, avec d'autres enjeux aujourd'hui, qui est qu'on est littéralement envahi de contenu, le rythme devient infernal. Donc, moi, je pense que l'IA va commencer à nous aider aussi à filtrer tout ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'ère où la génération de contenu est peut-être derrière nous et que les agents, notamment, bien orchestrés, bien conçus, vont nous aider aussi à gérer le flot massif de contenu qu'on finit par voir généré partout. Mais on pourra en reparler parce que je crois que c'est un des sujets qu'on pourra...
Oui, on va parler de ces sujets-là. On a beaucoup de choses. On va parler évidemment de cette encyclique du pape. On ne vous parle pas souvent du pape, mais on va vous en parler ce soir. On reviendra sur plusieurs choses, donc autour du Vatican. On va enchaîner sur la Maison-Blanche, parce que ça, on pourra faire ce parallèle. La Maison-Blanche, elle qui retire son décret de sécurité de l'IA sous la pression de Musk et Zuckerberg. Mais tout de suite, parlons de l'Église qui place l'IA au cœur de ses préoccupation dans sa première encyclique Magnifica Humanitas qui a été présentée ce lundi. Alors on reviendra sur une encyclique pour vous raconter un petit peu pourquoi c'est important. Le pape Léon XIV a mis en garde contre les dangers que représente cette technologie et n'était pas le seul présent dans cette encyclique, à la présentation de cette encyclique. Il y avait le cofondateur d'Anthropic, il a appelé à contrôler cette IA sans tarder.
Artificial intelligence needs to be disarmed.
Léon XIV l'admet volontiers, le mot est fort, mais il a été délibérément choisi pour attirer l'attention et faire le parallèle avec le désarmement nucléaire auquel l'Église a toujours appelé.
Il faut libérer l'IA des logiques qui en font un instrument de domination, d'exclusion ou de mort. Comme l'énergie nucléaire, elle doit être au service de tous et du bien commun.
Mais désarmer ne suffit pas, concède le souverain pontife, il est aussi temps de construire.
L'intelligence artificielle peut être un chantier de l'histoire, où le progrès technique apprend à servir la vie humaine.
Léon XIV, qui a accepté l'invitation de Christopher Ola, le cofondateur d'Anthropic, présent lors de cet événement, a cherché ensemble les voies qui permettraient à l'humanité de progresser avec l'IA. Le chef d'entreprise qui a confessé toutes les difficultés qu'il y a à ne pas se faire happer par les forces du mal.
Chaque laboratoire d'intelligence artificielle de pointe opère dans un ensemble d'incitations et de contraintes qui peuvent parfois entrer en conflit avec le fait de faire ce qui est juste. Nous serons toujours influencés par ces forces.
Le cofondateur d'Anthropic, qui a appelé l'ensemble des acteurs du monde économique, politique et du culte à prendre le sujet au sérieux.
Voilà, et pour cette encyclique du pape et ce papier, vous avez bien entendu reconnu la voix d'Erwan Maurice qui a préparé tout cela. Juste un petit mot de rappel, parce que, comme beaucoup, peut-être, une encyclique, alors c'est une lettre officielle du pape qui est adressée aux évêques de l'Église catholique. Alors, ça va souvent jusqu'aux fidèles. Hein. C'est un texte important, utilisé pour exprimer un peu la position du Vatican. Alors, je prends quelques exemples. Hein. Le pape François, c'était sur l'écologie et le climat. Le pape Jean-Paul II, c'était sur les questions sociales et éthiques. Le pape Léon XIII, c'était sur la condition ouvrière au 19e siècle. Donc vous voyez, il y a beaucoup, c'est vraiment un moment important de prise de position de l'Église. Et donc là, Léon XIV, c'est une encyclique sur l'IA, ce qui signifie un peu que le Vatican considère l'IA comme un sujet civilisationnel majeur au même niveau que l'écologie, la paix ou la justice sociale. Effectivement, c'est un moment important quand même.
Oui, c'est un moment important, mais on savait que Léon XIV était un bon connaisseur de l'intelligence artificielle. C'est assez rare finalement parmi les grands dirigeants, ou en tout cas les grandes figures politiques, d'avoir ce niveau d'expertise. Ce qui est intéressant, c'est que d'abord, bon, le Vatican ne peut pas agir en tant qu'acteur géopolitique, géostratégique pour réguler l'IA. Oui. Éventuellement, ils peuvent tenter d'influer sur le narratif autour de l'IA et instaurer, je dirais, un univers sémantique, une position que d'autres vont pouvoir suivre. Ça, c'est le premier point, à mon avis, intéressant. Le deuxième point, c'est que, vous avez remarqué, c'est le cofondateur d'Anthropique qui était présent. Mmh. On va le voir tout à l'heure, par rapport aux positions des différents acteurs de l'IA dans la vallée. Ceux qui sont en tête, autrement dit OpenAI et Anthropique, ont plutôt tendance à être dans le camp de ceux qui veulent réguler. En revanche, ceux qui sont derrière, je pense notamment à XAI par exemple, eux ont plutôt tendance à vouloir libérer. Pourquoi ? Ben, en fait, c'est tout simplement une question de barrière à l'entrée. Plus il y a de la régulation, plus tu gardes ta position de leader. Oui. Moins il y a de régulation, plus tu es en position de pouvoir et de devenir un challenger, voire de reprendre la première place. Donc, si on est un tout petit peu cynique, la position ici, la présence d'Anthropique lors de la présentation de cette encyclique est peut-être due au fait que bon, ils sont clairement dans la position des régulateurs.
Moi, si je peux rebondir là-dessus.
Vas-y, Augustin. Oui.
Moi, je trouve que au contraire, je pense que c'est pas un signe. C'est ma lecture parce que quand j'écoute l'Église, l'Église dit c'est un peu comme la révolution industrielle, l'IA. C'est une.
Il dit, c'est pas un sujet que technologique, c'est un sujet anthropologique, politique, spirituel.
Et il dit, il faut pas mettre des garde-fous étatiques. Il vous dit, il faut protéger la dignité humaine. Et pour moi, en fait, c'est le vrai message, c'est la morale et la concurrence qui vont créer ce framework. C'est pas une décision de Bruxelles ou Washington qui va influencer sur la.
Non, je pensais pas une décision de Bruxelles ou Washington. Je pensais plutôt à cette position qui consiste à dire attention, mettons des garde-fous. Alors les garde-fous peuvent être éthiques ou moraux. Si, parce que d'une certaine manière, quand il dit, il faut que l'IA serve le bien commun.
Oui.
Ça c'est la morale, c'est la concurrence.
C'est une question éthique et morale. Ce qui est intéressant et qui va plutôt dans le sens d'ailleurs d'acteurs de l'IA, c'est que on a l'impression que dans les mots de Léon XIV, il y a une promotion aussi de l'open source ou de l'open weight. Pour ceux qui connaissent l'IA, il y a l'idée de mettre les algorithmes en open source, de mettre les poids, les données qui permettent d'entraîner ces IA largement à disposition du public, ce qui peut rejoindre d'ailleurs cette idée de concurrence, cette idée de course et qui met tout le monde au même niveau.
Je dis juste, et je passe la parole Thomas, ce qu'il dit dans son message, l'IA doit rester au service de la personne humaine et du bien commun, le contrôle technologique ne peut pas être laissé à quelques acteurs ou à une logique purement marchande, bon ça on en parle ici chaque soir, l'automatisation ne doit pas déshumaniser le travail, l'éducation, la santé, les relations sociales, les usages militaires ou de surveillance sont explicitement visés et le pape critique aussi les visions transhumanistes qui voudraient dépasser ou augmenter l'humain grâce à la machine. C'est quand même tous les sujets dont on parle ici régulièrement. Thomas,
plusieurs choses, j'ai eu la chance de participer à pas mal de discussions des conseillers du pape autour de l'IA à Davos notamment, mais ça fait 2 ans que ça circule, quasiment au même moment que sa nomination. L'Église s'intéresse déjà beaucoup à l'IA et était très consciente des enjeux et a beaucoup discuté, a fait beaucoup de groupe de travail au niveau, parce que c'est quand même un réseau, le Vatican, incroyable
oui,
au niveau.
Il faut rappeler que l'Église, elle est là, bon, avec les évêques, porter la, la parole de la religion catholique, mais ils sont aussi, ils ont un poids, enfin, ils estiment qu'ils doivent avoir aussi un poids spirituel, un poids sur le.
Et donc, le rôle de ces encycliques, c'était toujours de montrer, il la raccroche à son prédécesseur, il y a 135 ans, Léon XIII, sur la modernisation
de la condition humaine.
Exactement. Surtout sur la modernité de l'Église. En fait, un des problèmes qu'a l'Église dans un monde qui est en train de se déréguler ou de se re-réguler sous l'égide des empires, c'est de trouver un peu sa place dans cette modernité pour pas être un has-been ou quelque chose qui ne répond pas aux besoins du temps. Exactement. Et donc, quelque part, le fait que le pape, qui est jeune, qui est anglophone, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, s'exprime sur un sujet de la modernité qui occupe également les plateaux télé, la politique, etc., c'est un élément important pour dire on est dans le coup. Et ça, c'est important parce que, effectivement, on pourrait considérer que c'est la première des religions qui s'exprime sur ce domaine, sur ce sujet, de cette manière-là. Il va y avoir probablement de nouvelles manières de voir les choses. Je suis, par exemple, une des questions, c'est quelle est la vision politique de l'IA vue des Chinois. Les Chinois n'ont pas de pape, mais ils ont quand même une vision de la société, du monde qui pourrait s'assimiler.
Moi, j'ai toujours l'impression que c'est l'IA au service de l'industrie. Enfin,
pour les Chinois, non, pas du tout. Alors, d'une manière assez étonnante.
C'est au service du bien commun aussi.
Voilà, exactement. Ouais. Dans ce que j'ai lu, alors j'ai lu le résumé, mais ça ressemble beaucoup à la manière dont les Chinois me parlent de l'IA. Le bien commun, l'égalité entre les gens, le fait qu'ils fassent de l'open source.
Exactement.
Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit émerger des leaders moraux. Les Chinois le font pour les Chinois, mais il y avait quand même beaucoup de similarités. Et puis l'autre chose qui m'a toujours frappé, c'est pour avoir travaillé, comme tu le disais, chez un Google ou un Microsoft, il y a 10-15 ans, c'était quand même des choses qui étaient assez ouvertes, des sociétés qui étaient assez ouvertes. Maintenant, c'est des bunkers industriels qui font vraiment partie du complexe militaire ou industriel. Et donc, effectivement, le risque de la transformation économique qu'offre l'IA, parce qu'elle rebat l'écart de la productivité en permettant à une personne d'avoir une entreprise d'un milliard, c'est un peu l'objectif économique, c'est effectivement qu'il y a encore plus d'accumulation du capital au profit d'un petit nombre. Et donc là, on a quand même le grand enjeu, avec la méga IPO qui arrive, de l'IA va-t-il être un élément de progrès et d'émancipation, ou au contraire un élément d'asservissement, et le jury is still out, comme disent les Américains, parce que on voit qu'on est plutôt aujourd'hui sur l'accumulation de capital au profit de quelques-uns, et que les redistributions vers les personnels les plus pauvres, elle a du temps à arriver.
C'est traduit un peu vite quand on dit, il a dit, il faut désarmer l'IA.
En fait, il utilise un mot, l'armement, qui réfère, d'ailleurs, on l'a vu au tout début dans le sujet, qui se réfère au nucléaire. Je pense qu'il faut faire une grande différence entre aujourd'hui ce qu'est l'IA, la manière dont on utilise l'IA, le potentiel de l'IA et ce qu'on a vécu avec le nucléaire. Aujourd'hui, l'IA est disséminée massivement. Le nucléaire n'était pas disséminé massivement. Donc, on ne peut pas contrôler l'IA comme on contrôle aujourd'hui le nucléaire. Et d'une certaine manière, c'est là peut-être qu'il y a peut-être une contradiction par rapport au fait de promouvoir l'open source. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'IA open source, en réalité, on donne à tout un chacun la possibilité potentiellement d'avoir accès au même type de technologie, etc. Et ce qui est assez étonnant, en effet, de la part d'un pape américain, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est de voir à quel point il prend finalement le contre-pied de la position américaine. Parce que, et on va le voir juste après, les Américains sont en train massivement de déréguler, même s'il y a eu une tentative de régulation à un moment donné, il est en train d'expliquer en sous-texte que la position américaine n'est probablement pas la position à suivre. Mmh. Et ça va poser question, parce qu'aujourd'hui, au pouvoir, on a quand même des conservateurs. Quelle va être la réponse des conservateurs, qui sont évidemment religieux aussi, vis-à-vis de la position du pape ?
Ce qui est intéressant aussi et qui te touche directement, c'est il a énormément promu dans son texte l'importance des journalistes, du fact-checking, de la vérité. Il faut quand même rappeler, et je répète à chaque fois qu'on parle d'IA, en tout cas d'IA générative, qu'une IA générative ne connaît ni le vrai, ni le faux, ni le bien, ni le mal.
C'est de l'algorithmisme.
Ni le bien. Et en fait, quand on veut le résumer pour expliquer rapidement à quelqu'un les limites des outils IA, aussi puissants soient-ils, c'est les deux choses que l'IA ne comprend pas et ne connaît pas, ni le bien, ni le mal, ni le vrai, ni le faux.
Est-ce que pour ça, Augustin, toi, avec ton regard alors, français, mais évidemment depuis quelques années un peu américain, ça veut dire que l'Europe doit un peu jouer cette carte? Alors là, ça vient du Vatican, qui est installé historiquement au cœur de l'Europe, mais que l'Europe doit jouer, doit devenir une puissance mondiale de l'IA éthique. Est-ce qu'on devrait rebondir dessus
pour... Moi, je pense qu'il n'y a aucune opportunité commerciale de faire de l'IA éthique. Et je pense qu'on... J'entends le message du pape, en fait. Et je pense que ce n'est pas parce qu'il est américain qu'il doit être comme le...
C'est étonnant comme position.
Bon, il a son indépendance complète. Moi, donc ça me... Et ensuite, il a eu ses petites bisbilles avec Trump. Et ensuite, il y a aussi deux types de pouvoirs conservateurs. Il y a le pouvoir conservateur catholique et le pouvoir conservateur protestant. Mais ça, je pense que... Écoute, moi, tout ce qui est régulation, on n'a encore rien créé en Europe. J'ai envie de te dire non. Je vois pas quel est l'intérêt de rebondir là-dessus pour aller derrière créer des champions. On va essayer de créer des champions de quoi, en fait?
En tout cas, on va suivre évidemment comment tout ça va irriguer un peu vers les. D'ailleurs, il y a la journée Mistral jeudi. On va voir si quelqu'un rebondit sur ce sujet-là. Je voulais mettre ça aussi. Je trouvais ça intéressant de mettre ça ce soir en rapport avec ce que j'ai dit. La Maison Blanche qui a retiré son décret de sécurité IA après un lobby de Musk et Zuckerberg. En fait, il y avait un décret qui demandait au. C'était après avoir supprimé dès 2025 le décret de l'administration de Biden sur la sécurité de l'IA. Donald Trump préparait un nouveau texte, alors beaucoup plus léger, pas de contraintes fortes, pas d'interdiction, seulement des engagements volontaires des acteurs de l'IA, quelques contrôles de sécurité. Et puis même cette version minimaliste, elle a été un peu retoquée par Zuckerberg, par Elon Musk, qui ont dit à Trump, non, ça va trop loin, il faut pas. Et là, on voit cette opposition.
En fait, le problème de cette régulation, c'est que pour faire un audit, il faut avoir accès à beaucoup d'informations. Et en l'occurrence, c'est très compliqué de faire ces audits-là. Les IA restent tout de même encore des boîtes noires. Quand bien même on arrivera à faire des audits en essayant de leur faire générer du contenu, faire générer des choses, on n'arrive jamais à véritablement circonscrire tout ce qu'elles sont capables de faire. Donc même techniquement, sans rentrer dans le détail, c'est très compliqué de répondre à cet enjeu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on est dans une course géopolitique entre les Américains et la Chine. Je veux dire, plus on met des barrières aux innovateurs américains, plus on se met dans une situation, enfin les Américains se mettent dans une situation où la Chine peut les dépasser. Et ils sont dans une situation, mais les Chinois,
surtout,
ils sont en train de dépasser les Américains.
Michel, peuvent regarder l'Europe, on s'est tiré dans le pied, on est mort.
L'Europe,
donc,
c'est un autre sujet.
Ils se sont dit, est-ce qu'on veut faire comme l'Europe ou est-ce qu'on veut continuer d'être leader?
Bien sûr, mais l'Europe est vraiment à côté. Ça, c'est le deuxième point, la Chine aujourd'hui est en train de dépasser les Américains, c'est pas le moment de réguler pour les Américains les avancées technologiques. Et puis le dernier point, c'est que ceux qui freinent, ceux qui veulent qu'il y ait une régulation, c'est qui?
Les Chinois.
Les Chinois, certes, mais c'est surtout OpenAI et Anthropic, encore une fois, pour créer un moat, pour créer une barrière à l'entrée. Ceux qui poussent Trump, et qui ont d'ailleurs l'oreille de Trump, en particulier Musk, c'est Musk et c'est Zuckerberg. Pourquoi? Parce qu'ils sont en retard. Donc, Trump a très bien compris, à mon avis, que l'enjeu face à la Chine, il est clé. Musk à l'oreille de Trump, il a lâché la bride et puis ils y vont. Et c'est vraiment à 180 degrés de ce qu'on vient de dire sur le pape.
Sur ces sujets-là, il y a plusieurs sujets. Je pense que le premier, c'est que ça va tellement vite que toute réglementation qui se met en place aujourd'hui est déjà obsolète au regard de la forme. Enfin, les agents n'existaient pas il y a 6 mois. Mm-hmm. Il y a 2 ans, il y avait des LLM qui racontaient n'importe quoi. Maintenant, ils ont des chain of thought, des RAG, ils sont très pertinents pour la plupart des tâches. Donc, toute régulation, vu le temps qu'il faut pour produire le texte, même si elle est faite par une IA, est déjà en retard sur la réalité. La deuxième chose qui est intéressante, qui est un peu l'effet de réseau qu'on voit quand une technologie se dissémine. On n'a jamais disséminé des technologies aussi vite que maintenant. Et donc, en fait, une des choses très intéressantes quand vous utilisez Claude Code aujourd'hui, ou Claude, c'est qu'après chaque session, il vous dit, est-ce que j'étais bon? Est-ce que je peux partager avec Claude ce que tu as fait avec moi? Et donc, aujourd'hui, il y a, chez les leaders, la capacité à utiliser non seulement l'intelligence artificielle, mais un réseau installé de l'ensemble de l'intelligence humaine qui donne énormément d'informations à ses dominants et va leur permettre d'améliorer leurs outils. Et en face, c'est déjà ce que font les Chinois sans besoin de régulation. Donc, je suis d'accord avec toi. La motivation principale, et quand moi qui reviens de Chine, je le vois, à part sur deux, trois petits sujets, les Chinois sont à parité avec les Américains ou meilleurs. Ils sont meilleurs en Edge, ils sont un petit peu moins bons en Core System à cause de leur retard sur les puces Nvidia. Ils vont les rattraper cette année. Donc, quelque part, Trump a besoin de sa dynamique entrepreneuriale, des quatre méga patrons qui se détestent et se challenge, pour que ça donne quelque chose d'encore meilleur. C'était la technique qu'avaient employé les Chinois quand ils m'expliquaient pourquoi ils avaient fait, comment ils avaient fait les voitures électriques. Ils ont dit, il faut chasser en meute. Et donc, dès qu'on met de la régulation, on crée de la friction, la meute, ben, elle se réduit. Et donc, quelque part, les Américains n'ont plus les moyens de réguler.
Et puis, les Chinois, ils régulent en marchant, quoi. Ils disent, tiens, ben là,
non,
on
va un peu... Alors, les Chinois ne régulent pas, ils planifient. Oui, ils planifient, ce qui est très, très différent. Mm-hmm. C'est-à-dire, quelque part, ils définissent les objectifs macro qu'ils doivent atteindre. Alors, là, ils ont le plan 2026-2030. Donc, ils ont des plans à 4 ans. Enfin, ils appellent ça quinquennome, ils le font en 4 ans, parce qu'ils sont avant. Et donc là, ils ont dit, nous, on doit être, pour les plans 2030, ils doivent être à l'origine de la plupart des normes européennes, ils doivent être leaders dans les technologies clés, ils doivent être autonomes stratégiquement sur l'ensemble des composants. Donc les Chinois, ils y vont, et tout ce qui leur permet d'atteindre leur objectif n'est pas une limite. Voilà. Donc, c'est pas une régulation ex ante, c'est une réaction ex post. Est-ce que ça me permet d'atteindre l'objectif ou pas ?
Augustin ?
Moi, la seule crainte que peuvent avoir certains régulateurs aux États-Unis, en Chine, en Europe, c'est à quel moment cette IA n'est plus contrôlable. Mm-hmm. Et en fait, on y est encore loin de ce moment-là. Moi, je pense que vous saviez le papier là, IA 2026 ou IA 2027, qui avait été écrit par un des cofondateurs de ChatGPT et qui disait qu'en fait, en 2027, l'IA allait prendre le contrôle de l'humanité. Et donc, c'était à partir de ce moment-là que les gouvernements devaient se mêler. De la qualité de ces modèles. Là, on est en 2026. Franchement, vous les voyez, vos LLM et vos agents, on n'y est pas encore. Ils sont pas prêts de prendre le contrôle. Donc, c'est pour ça que cette régulation n'avait pas lieu d'être. Il faut que les États-Unis restent le phare sur Terre de l'IA. Pourquoi ? Parce que c'est un pays occidental allié à l'Europe.
Je pense que tu dis, c'est super intéressant sur à quel moment l'IA n'est plus contrôlable. Moi, ma perception aujourd'hui, c'est que on a voulu rendre l'IA totalement contrôlable et donc on crée encore des moteurs conversationnels serviles. C'est-à-dire que le plus gros biais qu'il y a aujourd'hui quand on code avec de l'IA, parce que ça fait 2 semaines que je suis dans mon code,
oui,
c'est que
replonger dans le code.
Plus que replonger, c'est à quel point l'IA est toujours d'accord avec toi et renforce tes convictions pour qu'il clique plus. Ça crée un immense biais, un peu comme un très gros biais cognitif. Mais quand on réfléchit bien, si l'IA vous dit pas oui, comment ça vous dire non ? À partir de quand non devient une IA qui rentre en opposition ou s'autonomise ? Et donc, on a une question sémantique que doivent se poser aujourd'hui les gens qui sont vraiment dans les moteurs qu'ils appellent frontières, notamment OpenAI et Anthropic, pour libérer certains modèles. Parce que, en fait, si on veut que l'IA devienne meilleure, il faut qu'elle devienne critique. Et à partir du moment où elle devient critique, est-ce que ça devient soutenable ou défendable ? Oui. C'est une question, par contre, qui va, à mon avis, arriver dès 2027, et qu'on voit déjà affleurer. Et là, on se posera des questions. Et je ne sais pas si c'est la régulation le vrai sujet.
Ouais, c'est un bon point. C'est peut-être à ce moment-là, ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment réagir ? C'est pas mal.
Et puis tout ça, bien entendu, il y a aussi, je pense qu'il faut le rappeler, la personnalité de Trump aussi, qui peut être imprévisible et qui, tout d'un coup, s'il a un autre son de cloche, peut dire, oh, finalement, on va réguler ça et ça. Enfin, voilà. Enfin, ce qui était intéressant, c'est de mettre en parallèle ces deux, c'est la position du Vatican et celle des États-Unis. Augustin, c'est toi qui nous a ramené ça des États-Unis. C'est Sam Altman qui a fait une offre à toutes les startups de Y Combinator. Il leur propose un accès privilégié, donc, à ces outils, à l'ensemble de toute la promo de Y Combinator, qui est l'un des plus gros accélérateurs, si c'était le plus gros, le plus connu.
Le plus beau.
D'ailleurs, Sam Altman l'a piloté, enfin l'a dirigé pendant un moment. Alors, c'est un coup de com' ou il y a un vrai coup de distribution derrière tout ça ?
Bon, je pense que...
Utiliser mes outils, et moi, en contrepartie, je prends quelques petites...
Non, il prend des pourcentages. Je vous file 2 millions d'euros de dollars de tokens. Et pour ceux qui veulent me passer 1% de la société, là, je pense que c'est un super coup de com', c'est aussi un bon coup de distribution. En fait, ces boîtes vont commencer à utiliser des tokens OpenAI. Ensuite, c'est vrai qu'un... la boîte de Dario, je bug. Anthropic, allait mettre, je crois qu'il y a 125 boîtes par classe YC, il y a 2-3 classes par an. aller mettre ce montant-là, proposer la même chose
à toutes ces entreprises.
À toutes ces entreprises, il n'y aura pas vraiment d'enjeu. Donc je pense, c'est un peu comme aujourd'hui quand on utilise des serveurs Microsoft ou Google.
C'est un peu ça, c'est un peu ce qu'avait fait Microsoft avec Windows, ce qu'Amazon avec AWS, voire Stripe aussi avec les paiements. Là, ils se disent d'utiliser mon système et puis.
C'est les premiers, mais c'est un bon coup.
Non, mais c'est pas les premiers. Moi, quand j'étais chez Google, on donnait des crédits, quand on voulait lancer cloud, on donnait des crédits gratuits. Donc
non, mais les premiers sur tout ce qui est IA génération, quoi.
Je crois même pas, parce qu'en fait, Azure. Donc en fait, si on revient, l'origine de OpenAI, c'était quand même les crédits gratuits de 10 milliards que donnait Microsoft contre 30% d'OpenAI. Donc c'est presque l'origine d'OpenAI, c'est les crédits gratuits Azure filés par Microsoft. Donc quelque part, il est presque fidèle avec le modèle. Toutes les manières, ce que veulent faire toutes ces boîtes de tech, c'est créer de l'addiction. Les modèles aujourd'hui sont
transformer
modèles...
le token en capital IA.
Voilà. Non, mais c'est surtout que on te donne ton premier shot gratuit pour que tu deviennes addict, d'accord. Et il faut voir que aujourd'hui les modèles, notamment celui d'Anthropic et d'OpenAI, ils sont construits pour être de plus en plus addicts, pour que vous en consommiez de plus en plus et de plus en plus dépendants, comme de la drogue. Donc effectivement, on a intérêt à en donner aux primo-consommateurs. Et donc quelque part, on voit aussi, et ça c'est l'intérêt des PaaS, enfin des plateformes as a service, ce qu'essaie d'être OpenAI, Claude, etc., c'est que plus vous prenez un système qui utilise des fonctions sophistiqué dans votre dispositif pour aller le plus vite possible au marché, plus vous augmentez votre dépendance vis-à-vis de ces acteurs, vous baissez votre niveau de souveraineté ou la qualité de votre modèle économique. Donc il y a toujours un arbitrage pour l'entrepreneur entre, si je prends le truc sur OpenAI, je vais plus vite, donc ça c'est bien parce que ça m'amène de valider mon business model, sauf si mon business model c'est justement de résoudre ce problème qu'OpenAI a résolu à ma place.
Michel ?
Oh, c'est probablement une tentative pour Sam Altman de pousser aussi Codex face à Claude Code.
Tout que GitHub, j'ai lu des choses sur GitHub, on dit que GitHub en ce moment. L'autre GitHub est un petit peu dans des flots.
GitHub a changé de business model et en fait maintenant il facture au token alors que GitHub.
Oui, puis on dit que ça marche moyen en ce moment, donc tout le monde essaie de reprendre un peu cette partie autour du développement.
Mais là, je pense que c'est vraiment le retard de Codex face à Claude Code qui est une tentative là de rattrapage par Sam Altman, sachant que Codex aujourd'hui est quasiment au niveau de Claude Code, ce qui n'était pas le cas il y a 2 mois. Aujourd'hui, la toute dernière version 5.5 de GPT, elle est vraiment très, très mature. Donc oui, d'autant que les développeurs sont un peu, enfin ils sont fidèles à un certain nombre d'outils. Dès lors qu'on commence à utiliser une solution, on a tendance à vouloir rester dans cette solution. Il y a pas une dette technique, mais tout de même, parce qu'il y a quand même il y a quand même des outils, il y a quand même des outils de configuration qui te permettent d'être pertinent avec tel ou tel acteur. Et donc, je pense qu'il est en train de pousser Codex. Ouais.
Allez, tu voulais dire...
Il faut voir, c'est que quand on commence à coller avec un outil comme celui-là, on donne de plus en plus d'informations. Et plus on donne d'informations, plus on a de confort à utiliser son système. Et donc, plus on l'habitue à nous-mêmes. Et plus on augmente le switching cost. Et donc, aller réexpliquer tout ce qu'on fait avec Claude à OpenAI, ça prend du temps et puis c'est un risque et on n'a pas envie de prendre le risque. Et donc, c'est comme ça que se créent les grandes familles de fidélité.